Eh bien, bonjour, Raymond Richard au micro. Nous nous retrouvons pour l'émission Bienvenue en Europe avec Monsieur Bourgès Monori. Et c'est notre dernière émission de cette année 2016. Et pour cette émission, eh bien, on a quelques cadeaux de Noël de l'Europe. Allez, l'actualité quand même, d'abord.
Oui, ben les cadeaux de Noël, on en a toujours, parce que l'Europe, c'est une affaire qui est d'abord positive, contrairement à ce que l'on entend souvent par ailleurs. Alors, évidemment, il y a des couacs, il y a des manières de construire l'Europe, il y a la manière dont cette Europe fonctionne et qui n'est pas toujours très satisfaisante, mais l'actualité est là pour nous rappeler que des choses très positives aussi sont à mettre...
Alors, les élections peut-être,
Les bonnes élections, ce sont les bonnes nouvelles au niveau des élections, c'est que les partis anti-européens d'extrême droite ont été, lors de toutes les dernières élections, finalement, ont été éliminés du pouvoir. Alors il y a évidemment...
En Roumanie,
en particulier. Là, les élections se sont tenues très récemment. C'est le 11 décembre, donc c'est vraiment très récent au moment où nous enregistrons cette émission, que le Parti social-démocrate est arrivé très très largement en tête devant les nationalistes, qui n'atteignaient même pas les 20%. Donc là aussi, c'est une certaine victoire pour l'Europe. Du côté de l'Autriche, eh bien, on a vu que les résultats étaient vraiment, cette fois-ci, tout à fait confirmés pour écarter l'extrême droite anti-européenne. En Italie, on s'attendait à des catastrophes à la suite de ce référendum plus ou moins plébiscité pour ou contre le maintien de Renzi au pouvoir. C'est finalement une certaine sagesse qui l'emporte pour, en tout cas, éviter d'envoyer l'Italie dans le chaos d'élections anticipées, compte tenu du contexte que l'on sait avec le groupe d'un certain... comment il s'appelle ? Grezzo, ou j'ai oublié son nom, excusez-moi, chers auditeurs, mais en tout cas, c'est un parti anti-européen qui a été là aussi mis de côté tant que les élections législatives ne se tiennent pas. Donc tout ceci est intéressant. Il y a également d'autres informations comme le lancement de la force d'intervention rapide le 7 décembre, donc c'est l'agence Frontex, une agence européenne de Frontex avec 1500 personnes qui constituent le corps d'intervention rapide qui est destiné à aider les pays membres lorsqu'il y a des problèmes d'urgence aux frontières extérieures de l'Union. Il y a également un accord qui est intervenu au Conseil début décembre pour renforcer les contrôles aux frontières extérieures. Ceci est quand même intéressant à souligner parce qu'on n'arrête pas de mettre l'Europe à mal en disant qu'elle ne sait pas se comporter par rapport à la gestion de ses frontières extérieures. Alors pour une fois, alors jusqu'à présent, ce n'est pas l'Europe d'ailleurs en tant que telle qui est responsable, ce sont les États, rappelons-le. Toujours parce qu'on confond l'Europe avec la gestion nationale des États qui font partie de l'Europe. En tout cas, là, il y a eu un accord, le 7 décembre exactement, pour une modification du code des frontières Schengen. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura surtout l'obligation de contrôle systématique de toutes les personnes qui franchissent la frontière extérieure de l'Union. Il y a, on pourrait y revenir peut-être tout à l'heure au cours de cette émission, le lancement d'un corps européen de solidarité qui s'adresse aux jeunes. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Il vient d'être lancé au mois de décembre. Il s'agit de nouvelles mesures pour l'emploi et la formation des jeunes et qui vont un peu comme dans Erasmus dans un autre pays.
Oui, alors on peut parler justement du succès de ces mesures, Erasmus pour les jeunes, le Corps européen de solidarité pour les jeunes, le fait que Erasmus sert aussi aux jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, que ce ne sont pas que les étudiants, mais il y a aussi presque autant de jeunes qui vont en stage à l'étranger. Moi, je voudrais bien qu'on revienne un peu sur Erasmus, parce que ce sont les jeunes, et parlons un peu de ces réussites.
Eh bien, en ce qui concerne ce dossier particulier, il s'agit d'un programme de mobilité qui est une nouvelle initiative qui a été lancée par la Commission européenne et qui est officiellement lancée depuis le 1er décembre de cette année. Il s'agit en fait pour les jeunes de s'inscrire dans un registre dans lequel iront piocher toutes les organisations qui agissent en faveur de la solidarité au plan européen. Alors parmi les activités, par exemple, reconstruire une école ou un centre communautaire qui a été détruit par un tremblement de terre, venir en aide à des demandeurs d'asile, nettoyer des forêts, travailler avec des personnes handicapées dans un centre communautaire. Ça, ce sont que quelques exemples, mais
c'est une espèce de service civil européen.
Exactement. Et il faut avoir...
financé par l'Europe.
Financé par l'Europe. C'est à partir de 17 ans qu'on peut s'inscrire. Et c'est quand même une initiative intéressante parce que les organisations, là aussi, on peut faire un appel sur cette radio pour que des organisations s'inscrivent pour recruter des jeunes qui viendraient de l'étranger. Et c'est sur base de volontariat. Donc il y a deux volets d'ailleurs qui sont complémentaires. Un pour le volontariat strict et l'autre un caractère professionnel. Et les entreprises, les organisations gouvernementales, municipalités, organisations non gouvernementales, entreprises, tout le monde, que ce soit des petites PME ou des grandes multinationales, peuvent s'inscrire dans ce dispositif et proposer des projets à caractère solidaire. Et pour ceux que cela intéresse, il faut aller sur le site européen, portail européen de la jeunesse. Lorsque l'on recherche cela, par exemple sur Google, eh bien on trouve tout de suite de quoi il s'agit. On peut faire des recherches pour savoir exactement dans quel cadre tout cela peut intervenir. Donc c'est vrai que c'est une initiative vraiment pas à négliger.
Et alors Erasmus, j'aimerais bien qu'on donne quelques chiffres.
Parce que c'est vrai que c'est en complément. Il y a des chiffres qui ont été publiés récemment par la Commission européenne qui gère ce dossier, comme chacun sait. C'est un des grands succès de l'Europe vis-à-vis de la jeunesse.
Et il y a quand même beaucoup d'étudiants qui vont.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a déjà permis à plus de 3 millions d'Européens, de jeunes Européens, d'aller étudier dans un autre pays européen, Erasmus. Ça, c'est la base. C'est un programme d'échange qui a vraiment connu un succès grandissant au fil des ans. Les chiffres qui ont été publiés donc, cette année remontent aux années 2013 et 2014, donc ce n'est pas tout à fait récent, mais ça indique une tendance. Ce sont en tout cas les dernières analyses qui ont pu être effectuées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, c'est cette dernière année qui a été enregistrée, il y a pratiquement 300 000 Européens, jeunes Européens, qui ont bénéficié de ce programme. Mais alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le souligne pas souvent, ce sont les destinations les plus populaires et les pays qui participent le mieux à ce type de programme. Eh bien, que ce soit au niveau de ceux des étudiants qui partent à l'étranger ou des étudiants étrangers qui viennent dans un pays, c'est l'Espagne qui, dans un sens ou dans l'autre, est le premier de la classe en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est l'Espagne qui reçoit le plus d'étudiants étrangers. Et c'est également l'Espagne qui en envoie le plus également à l'étranger. Et parmi les pays de destination les plus populaires, en termes de chiffres, les chiffres les plus importants, c'est l'Espagne dont on vient de parler, avec également derrière l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Alors ce sont des pays assez classiques, on pourrait dire. L'Italie également n'est pas trop en retard, en retrait derrière tout cela, mais c'est quand même l'Espagne en tête. Ce qu'il y a, si on rapporte ces chiffres auprès des en termes de population
concernée, oui,
par rapport aux étudiants qui se déplacent, là évidemment les données changent puisque c'est le Luxembourg, le Liechtenstein, la Lettonie, la Lituanie qui se trouvent en tête aux côtés de l'Espagne parce que en termes de population, eh bien ils reçoivent le plus d'étudiants étrangers. Alors c'est quand même intéressant de le voir, parce que des petits pays auxquels on ne s'attendrait pas, comme la Lettonie, la Lituanie, voire le Liechtenstein, c'est quand même
intéressant. Qui vont à l'étranger,
qui viennent étudier chez eux.
Je voudrais qu'on parle aussi des stages, parce que finalement, c'est aussi, là aussi, souvent on dit que les étudiants, mais en fait, Erasmus, ça s'adresse aussi aux jeunes qui font des stages.
Qui font des stages, et puis qui... Et alors là, c'est en progression considérable au fil du temps, et en particulier des stages en entreprise. C'est une chose que l'on voyait pas trop se dessiner. Et là, il y a quand même 22% des étudiants qui choisissent cette option. Donc c'est quand même pas du tout négligeable, et ce chiffre est en progression chaque année. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur, enfin ce que l'on pouvait dire, on pourrait en dire beaucoup plus naturellement sur ce dossier, mais c'était intéressant de souligner que un programme positif en faveur de l'Europe et qui profite à la jeunesse marche vraiment très bien.
Alors, eh bien, nous allons faire une pause musicale et après nous allons quand même parler de la sonde Galileo. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel pour l'émission Bienvenue en Europe. Et donc, nous allons parler de la sonde Galileo, puisque ce système performant, lancé par l'Europe, est un succès. Alors, quand même, Cocorico, non, c'est pas Cocorico parce que c'est européen.
Voilà. Et en ce qui concerne Galileo, peut-être les auditeurs ne savent pas trop de quoi il s'agit. En fait, c'est un système concurrent au système américain GPS de positionnement. Alors on sait tous que de plus en plus maintenant dans nos voitures, on a un système qui nous guide, qui nous indique la route à suivre, qui nous positionne. Lorsqu'on est avec nos téléphones portables, on peut savoir où l'on se trouve, on peut de ce fait là aussi se laisser guider pour aller de tel endroit à tel autre. Et ça, c'est le système GPS. Et le système GPS est un système américain qui remonte à très très longtemps maintenant, mais qui est dans les mains de l'Amérique et des États-Unis. Et ce système d'ailleurs n'est pas très précis, il est pas précis en positionnement, non pas parce qu'il ne peut pas l'être, mais parce que volontairement les Américains ne veulent pas que les utilisateurs puissent profiter au maximum de ce système. Or, l'Europe, qui a les capacités scientifiques de mettre sur place un système équivalent, a pris cette décision, alors là on remonte évidemment à quelques années en arrière, en 2002, et là c'était un tour de force de mettre ceci en place, parce que cela implique une trentaine de satellites à mettre autour de la Terre, en position stationnaire, et avec une exploitation au sol, pour ensuite définir exactement, précisément, des positionnements. Et alors l'Europe a donné le nom de Galilée, en fait, en hommage à l'astronome italien Galilée, et du coup ça s'est appelé Galileo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, dans la fin des années 1990, en fait les Britanniques et d'ailleurs aussi les Pays-Bas, ont freiné cette façon de rendre l'Europe indépendante parce qu'ils estimaient que ce n'était pas la peine de payer, que le budget européen soit mis à contribution alors qu'il y avait un système dont on pouvait profiter. Là, je crois que c'est vraiment intéressant de souligner que c'est la persévérance de la Commission européenne et de plusieurs pays, dont notamment la France, là il faut quand même le souligner, qu'on a, par la force des choses, mis en place ce système peu à peu. Et depuis maintenant, il y a un certain nombre de satellites qui sont en place et on va pouvoir dans quelques jours, dans les semaines qui viennent de cette fin d'année, voire au début de l'année prochaine, faire des premiers essais de positionnement, étant entendu qu'en 2020, ça paraît loin comme cela, mais en 2020 c'est dans 3 ans, eh bien le système sera définitivement en place avec une trentaine de satellites. Et donc cette géolocalisation sera très stable, et c'est un système très puissant, qui là, par rapport au système américain, sera plus performant, sera gratuit, et cela implique également que l'Europe se mette en pointe pour l'utilisation de ce système en développant au sol des systèmes type numérique pour se brancher directement sur Galileo. Et donc il y a au niveau électronique, au niveau des utilisations, tout un développement possible pour les industries européennes, et notamment à travers des positionnements de voitures et autres, pour prendre cet exemple qui nous parle peut-être un peu plus. Donc ça, c'est un grand succès de l'Europe, qui peu à peu, au fil des ans, s'est mis en place, et aussi, le souligner, grâce notamment à Ariane, le projet Ariane qui est un projet de lanceur de satellites européens, et donc là aussi c'est un grand succès. Alors certes, il y a eu quelques Soyouz qui ont été utilisés, dont certains d'ailleurs n'ont pas rencontré le succès qu'on en attendait, et au contraire de Ariane. Donc il y a un double succès pour l'Europe, Galileo qui se met en place et la fusée Ariane qui confirme ses performances.
Donc on ne pourra pas trouver une aiguille dans une botte de foin, mais quand même à 3 mètres près, c'est quand même d'une très grande précision.
Très très grande précision, et là l'Europe, on ne voit pas toujours que des progrès comme cela peuvent avoir des retombées sur également l'emploi en Europe,
et l'emploi, l'industrie, la recherche.
Et l'Europe reste en pointe. Là aussi, il faut souligner que quand les pays qui constituent l'Europe se mettent ensemble dans des programmes, eh bien, ils sont très performants et on arrive à la première place au niveau mondial.
Alors, quelques autres nouvelles ?
Alors, quelques autres nouvelles. Il y a aussi à souligner le budget européen. On parle pas toujours très souvent de ce budget parce que c'est des gros sous, et puis on dit ceux qui disent ça coûte toujours trop cher. L'Europe d'abord a un tout petit budget qui est parfaitement ridicule par rapport à ce qu'on lui demande. Il ne représente que 1% du PIB de l'ensemble des pays européens, ce qui est parfaitement ridicule. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu un certain assouplissement quand même à cause de la crise économique qui a été introduit, et il y a un accord dernièrement qui s'est constitué parce que autour du projet de la Commission européenne, donc le tout avait été déjà lancé dans le cadre, il y a un cadre constitutionnel, il y a ce qu'on appelle le semestre européen, donc il y a des dates au cours desquelles la Commission européenne présente des projets, analyse les budgets nationaux, en particulier pour que la zone euro puisse se maintenir en état de fonctionnement optimal, en tout cas avec tout ce que l'on sait par rapport aux écarts qui malheureusement interviennent à droite et à gauche. Et donc il y a un aspect particulier par rapport à la zone euro dans le contexte européen plus large. Mais là, la Commission présente ses projets, et puis le Conseil, c'est-à-dire les États, donne son avis, oui ou non, ou des aménagements, et le Parlement européen également fait de même. Et ensuite, c'est le Parlement européen et le Conseil qui dans le cadre d'une procédure dite de conciliation, essayer de se mettre d'accord. Et l'accord est intervenu, donc c'est pour cela qu'on essayait de en parler en cette fin d'année. C'est quand même important, il n'y a pas eu trop de... Il y a eu des arrangements qui permettent notamment de confirmer l'accent qui est mis en faveur de la création de l'emploi. Donc il y a tout un paquet de mesures qui figurent dans le plan budgétaire pour l'année prochaine en faveur de l'emploi, avec évidemment un volet sur la sécurité qui est tout à fait intéressant à souligner compte tenu du contexte que l'on sait, mais également un côté peut-être plus annexe qui n'a pas une liaison directement avec le budget européen, encore que ce budget européen, il y a aussi pour la partie de la répartition des crédits, plus de la moitié va vers la croissance, l'emploi et la compétitivité, et la part de l'agriculture, qui est traditionnellement très suivie du côté français, représente quand même 30% du montant total. Alors en ce qui concerne les analyses qui sont faites par la Commission européenne par rapport au positionnement de chaque État, il faut reconnaître que il y a, comme dans une classe, les bons élèves et les moins bons. Alors en tête, évidemment, on retrouve toujours l'Allemagne en particulier, mais même un petit pays comme l'Estonie, le Luxembourg, voire la Slovaquie, évidemment les Pays-Bas. Mais dans les derniers de la classe, en quelque sorte, malheureusement, il y a la France avec l'Espagne et le Portugal. Et ceci pour en raison de déficits excessifs. Alors lorsque l'on est actuellement en train de passer en revue des projets nationaux, en particulier chez nous, à travers la campagne électorale pour la présidence de la République, eh bien il faudrait quand même se souvenir qu'on fait partie d'un tout qui s'appelle l'Europe. Il y a une zone euro dont on fait partie, et il y a des règles pour que cette zone puisse se maintenir correctement. Et pour cela, il y a des traités qui ont été signés, notamment par la France, et il s'agit de les respecter, non pas pour souligner, comme certains le font d'une manière assez négative, pour dire qu'il y a l'austérité, l'Europe c'est l'austérité, non. L'Europe, c'est le progrès, à condition que chacun y mette du sien. Et là aussi, il y a eu un accord au niveau du Conseil, à travers les États, qui ont souligné que les bons élèves, justement, doivent s'impliquer davantage dans la dimension investissement pour que la relance de la croissance puisse véritablement bénéficier à tous. Mais là aussi, on sait très bien qu'est-ce qui ne va pas au niveau européen, c'est-à-dire qu'on a une monnaie commune, mais on n'a pas d'État en tant que tel commun avec les mêmes règles qu'au plan national. Donc on a déjà abordé cette situation dans d'autres émissions, mais il est vrai que tant qu'il n'y aura pas un vrai budget de la zone euro avec une fiscalité de la zone euro comme dans un État national, pour qu'il puisse y avoir ensuite un rééquilibrage par rapport aux dettes publiques, eh bien, il est évidemment qu'il y aura toujours plus de difficultés. Ceci étant, on est lancé dans cette direction, et si on ne s'y lance pas, eh bien, c'est un retour en arrière, et ce retour en arrière serait tout à fait catastrophique pour chacun des pays qui constituent l'Union européenne.
Alors, maintenant, on va peut-être un peu de sourire, puisque nous sommes dans la période de Noël, puisque finalement, on parle d'unification et de centralisation. Et en fait, quand on regarde les fêtes de Noël, alors c'est vrai que les usages des uns et des autres débordent les uns sur les autres. Alors on va parler un peu de ces traditions de Noël. Des traditions de Noël qui sont tout à fait différentes. Par exemple, dans le monde orthodoxe, c'est-à-dire l'Est de l'Europe, on ne fête pas Noël le 25 décembre, mais le 6 janvier. Alors, pourquoi ? Eh bien, le 6 janvier, c'est à cause d'une différence de calendrier. Les Européens de l'Ouest, la France, etc., ça donnait d'ailleurs le calendrier civil, utilisent le calendrier grégorien. Mais les pays d'Europe de l'Est utilisent le calendrier orthodoxe, ce qui fait qu'ils fêtent Noël le 6 janvier. L'Avent dure 4 semaines dans les pays de l'Europe de l'Ouest, notamment dans les religions chrétiennes. Mais pour les pays orthodoxes, On a le carême de Noël, et ça dure 40 jours. Donc, quelques différences qui se sont maintenues. Et Noël est fêté le 6 janvier. Alors, le 6 janvier, pour nous, c'est l'épiphanie, manifestation de Noël. On voit qu'il y a, notamment dans ces fêtes, quelques concomitances, mais chacun garde ses traditions. Et on sait, par exemple, que c'est Saint-Nicolas qui joue un rôle très important en Allemagne, en Belgique, au nord de l'Europe, puisqu'il est fêté le 5 décembre. Il arrive avec le Père Fouettard, il distribue des cadeaux en passant de toit en toit. C'est pour ça qu'il est représenté avec beaucoup de suie. Et puis, il met dans les cheminées les cadeaux et il récupère les carottes ou les navets pour son âne que les enfants ont mise. Dans les pays nordiques, c'est Sainte Lucie. Alors, Sainte Lucie, elle nous vient d'Italie du Sud, mais elle aurait guidé les chrétiens au moment des persécutions contre les Romains. Au moment des persécutions menées par les Romains contre les chrétiens. Et pour s'éclairer, elle avait une couronne de bougies. Et vous savez tous qu'en Suède, les jeunes filles suédoises font fête Sainte Lucie et se promènent avec ces couronnes. Le Père Noël, il est récent. Hein. Il vient des pays anglo-saxons. Il a pris un habit rouge qui vient d'une célèbre marque de boissons gazeuses que je ne nommerai pas. Il habite en Finlande, où il fabrique ses jouets. Et puis, avec ses rennes, il fait la distribution. Mais dans certains pays, c'est Saint Basile qui distribue les cadeaux. Par exemple, le 1er janvier, en Grèce, à Chypre. Alors, les enfants vont dans les maisons voisines récupérer des friandises, chacun va chez l'autre, et puis il y a une galette de Saint-Basile qui se partage. Alors, d'où viennent ces traditions Noël? Eh bien, il y avait dans le monde romain les Saturnales. On s'offrait des cadeaux au début de l'année, et il y avait une fête, et cette fête se faisait au solstice d'hiver à Rome. Cette fête a été baptisée il y a eu la christianisation d'un certain nombre de fêtes païennes. Et la fête des Saturnales, qui se trouvait au creux du solstice d'hiver, a été transformée par la fête de la lumière, puisque pour les chrétiens, lorsque l'Empire est devenu chrétien, la lumière, c'est Jésus-Christ, le cadeau de Dieu aux hommes. Dieu lui-même vient. Voilà, à l'origine des étrennes. Mais on a gardé l'idée des étrennes, et c'est pour ça qu'on se distribue des cadeaux au moment de Noël, que ce soit sous la forme de tel saint ou tel autre. Alors en Italie, c'est la Befana, et en Italie, on fait du ménage. Avant de recevoir les nouvelles choses, eh bien, on va aussi se débarrasser des anciennes. Donc la Befana est cette sorcière. Alors pourquoi la Befana? Eh bien, il paraît qu'elle s'est mise en route trop tard pour aller à Bethléem, rendre visite à l'enfant Jésus. Et alors, du coup, eh bien, elle dépose des cadeaux aux enfants qui sont endormis parce qu'elle se dit peut-être que l'un d'entre eux est ce Jésus que je n'ai pas réussi à découvrir. Donc, on voit que derrière l'uniformisation des rites européens, eh bien, il y a aussi la conservation des traditions. Et on voit aussi que les marchés de Noël, eh bien, certains de ces usages ont été largement repris par notre société de consommation, et que ce soit les marchés de Noël, le sapin, les décorations, les traditions culinaires, elles gagnent des pays, et pour la plus grande joie des enfants qui aiment ces décorations de Noël. Alors pour finir, je vous dis...
C'est, comme on est dans une émission sur l'Europe,
oui.
Tout ce que vous venez de dire me fait penser à la devise européenne. Parce que dans cette tradition
fin, oui.
chrétienne qui sont diverses, eh bien, la devise de l'Union européenne, c'est s'unir dans la diversité. C'est l'union dans la diversité. Et au niveau du christianisme, il y a effectivement des approches qui peuvent être différentes, mais ça forme un tout qui s'appelle la chrétienté. Eh bien, s'il y a un parallèle à établir.
Alors, bon Noël à tous.